Voilà, aujourd'hui on va parler de véhicules intelligents. Et oui, est-ce que les véhicules pensent, je ne sais pas, mais en tout cas ils deviennent de plus en plus intelligents, paraît-il. On va quand même poser la question à un spécialiste qui s'appelle Monsieur Rojdi Merzouki. Donc, bonjour Monsieur Merzouki.
Bonjour.
Vous faites des recherches sur ces intelligences, j'allais dire artificielles, mais néanmoins données par des gens qui ne le sont pas.
Oui.
Et vous travaillez dans le cadre de Polytech Lille, c'est bien cela, hein ?
Exactement.
Donc, dans ce cadre-là, vous cherchez dans le domaine de l'informatique appliquée au transport ?
Non, pas spécialement. Bon, il n'y a pas que l'aspect informatique qui nous intéresse là-dessus. C'est tout un aspect de conception intégrée. Ça veut dire quoi ? Donc, réaliser donc un système dit intelligent va directement de l'aspect physique vers pas à pas sa conception jusqu'à son contrôle et sa surveillance. Veut dire quoi ? Veut dire, par exemple, si je prends un véhicule, j'essaie de l'imaginer ce véhicule non seulement d'un point de vue esthétique, mais à l'heure actuelle d'un point de vue utilisation, pratique, économie d'énergie, réduire la pollution à un instant donné, transport de marchandises, transport par exemple de personnes. Et quand ce cahier de charge est bien identifié, on essaye de l'équiper avec des systèmes de mesure. C'est ça, en quelque sorte, le mot-clé intelligent vient de cette richesse en termes d'instrumentation embarquée sur ce véhicule-là, qui permet à l'utilisateur et à celui qui le programme de le réguler pour réaliser des tâches dites intelligentes de façon autonome, permettant par exemple qu'un véhicule peut circuler de façon autonome à l'intérieur du campus universitaire par exemple, ou bien d'espaces sécurisés tels que des voies de bus. Et donc un espace portuaire, ça peut être un port maritime ou un aéroport par exemple, ou bien une zone logistique. Alors donc voilà, alors l'ensemble de cette conception-là donne à la fin un système de transport dit intelligent. Cette intelligence reste toujours relative par rapport au type d'instrumentation embarquée, tel qu'on trouve maintenant pas mal d'équipements que grand public, tels que des GPS, tels que des capteurs de laser, des capteurs ultrasons ou infrarouges qui permettent de détecter des obstacles et qui permettent aussi de proposer des solutions d'évitement d'obstacles, par exemple, ou aide à la conduite, si on veut équiper ou assister un conducteur dans l'amélioration de sa conduite et dans l'économie de l'énergie. Voilà.
Donc dans ce que vous dites, il y a énormément de choses. Ça veut dire que vous avez, malgré la précision du thème, une palette très large de réponses à apporter en fonction des besoins.
Exactement.
Ces besoins, ils sont l'effet d'une commande, par exemple, particulière autour d'un projet à réaliser qui doit trouver des solutions nouvelles que, j'allais dire, les véhicules normaux n'apporte pas. Dans ce cadre-là, vous devez étudier en fonction d'un besoin quelles seraient les réponses originales. Donc vous avez une technologie de pointe, mais aussi une recherche qui se fait sur des problématiques particulières. À chaque fois, c'est une autre problématique que vous passez en revue, j'ai bien compris.
Exactement. Alors, à titre d'exemple, je vais vous citer donc l'exemple du projet, un projet européen dont l'Université de Lille 1 est chef de file, qui s'appelle INTRADE, Intelligent Transportation for Dynamic Environment, qui est un projet dans le cadre du programme Interreg 4B Nord-Ouest d'Europe, et qui consiste à développer un système de transport intelligent permettant, qui va être utilisé dans des espaces confinés portuaires, permettant à ces exploitants portuaires d'acheminer de façon efficace et productive du fret du quai vers des zones de logistique Alors, grâce à ce cahier de charges, donc on a réfléchi sur différents scénarios. Pourquoi? Parce que ces ports, les ports partenaires, entre autres, on a le port de Rouen, le port de Dublin, le port d'Ostende, qui représentent donc des espaces de plusieurs terminaux, des espaces confinés. Alors, dire à un port de cette taille-là d'augmenter, pour augmenter la productivité interne, donc il faudrait augmenter la fréquence d'acheminement donc de conteneurs ou de fret d'une manière générale. Pour cela, donc, il y a deux possibilités, soit élargir le port et donner plus d'espace à cet acheminement, qui n'est souvent pas possible. Donc on a des contraintes de surface, et du coup, donc, ou bien en contrainte de budget, parce que investir sur l'élargissement d'un port, ça coûte vraiment des sommes importantes, que de réaliser plutôt un système de transport qui est un peu efficace, tel que on l'a imaginé dans notre cas. Alors pour cela, donc on a entamé donc la conception d'un véhicule poids lourd, qui est un châssis poids lourd existant. Par contre, il est piloté de façon autonome ou bien manuelle. Donc tout dépend de l'utilisateur, il peut l'adapter à sa façon de gérer le fonctionnement de son port. Par contre, ces véhicules-là sont dits véhicules omnidirectionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent circuler de deux façons dans l'espace. Ils peuvent rouler longitudinalement ou bien latéralement, chose qu'on ne peut pas faire avec nos véhicules conventionnés. Ça rajoute une plus-value à ce système-là d'un point de vue l'espace étroit dans ces zones confinées, c'est que on s'adapte à l'environnement. C'est-à-dire, on est sûr. Imaginez un système de transport qui s'adapte à l'environnement d'utilisation. Mais ce n'est pas l'inverse qu'on souhaite, c'est-à-dire ce n'est pas l'espace qui s'adapte au système de transport. Donc, ainsi, le véhicule qu'on va réaliser, qui est en cours de réalisation, qu'on débutera vraiment les essais courants ce septembre 2012, c'est un véhicule qui n'est pas dédié à un port bien défini, mais qui est dédié à différents espaces portuaires. C'est cette généricité qui lui donne une propriété assez, assez importante. C'est un système qui est suractionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le même châssis, on trouve 8 moteurs, 4 moteurs de traction et 4 de direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pensé aussi à des scénarios de gestion de défaillance. Ça veut dire quand pendant l'acheminement, imaginez si un moteur tombe en panne, on peut imaginer que les autres moteurs sains arrivent à reconfigurer la commande et le contrôle de l'ensemble de l'engin. D'accord? Et avec un tel système, on peut maîtriser la vitesse. C'est-à-dire, on va dire, voilà, vous allez d'un point à un autre avec cette vitesse-là sur une cartographie bien donnée. Donc, un véhicule pareil, quand il est contrôlé comme ça, donc on respecte la vitesse à tout instant. Et du coup, on évite la congestion. La congestion, comme c'est un problème un peu, on va dire, universel dans les véhicules intelligents, dans le trafic, dans des espaces beaucoup plus publics, mais principalement la faute de cette congestion, c'est le conducteur en lui-même qui diffère, qui a plusieurs façons de conduite. Il suffit de freiner pour créer une congestion. Alors ici, on synchronise tous les mouvements et du coup, voilà, donc on peut gagner pas mal, réduire pas mal de problématiques liées à cette congestion et à la gestion du trafic. On peut aussi optimiser de l'espace en utilisant ce type de véhicule. Pourquoi? Parce que on ne va pas demander au port, par exemple, d'élargir leur espace, donc garder le même espace, mais on peut inclure le mouvement de ce véhicule transporteur par rapport à l'espace disponible. On peut utiliser ce véhicule, ou plutôt l'opérateur peut utiliser ce véhicule pour transporter du fret comme il peut l'utiliser pour transporter des personnes. Et donc, c'est pratique. Il peut l'utiliser le jour et la nuit, tout dépend. Alors, l'idée de cette automatisation, ce n'est pas de remplacer le système existant, mais de l'améliorer de façon à augmenter la productivité sans faire de gros investissements au niveau d'infrastructures. Je cite un seul exemple. Par exemple, un docker à l'heure actuelle qui va transporter un conteneur d'un point à un autre, un deuxième point à l'intérieur d'espace confiné, et il parcourt cet espace-là en 5 minutes. Avec le même docker et son même engin, il peut tracter au lieu d'un seul conteneur 3, 4, 5 conteneurs, juste en reliant, en concaténant, si j'ose dire, les différents systèmes de transport en faisant un train de véhicules sans qu'ils soient liés physiquement. Ils sont autonomes, par contre, ils peuvent se suivre un derrière l'autre. Et du coup, au lieu de transporter un conteneur pour la même distance et pour le même temps, on transportera 5 conteneurs. Et c'est le même utilisateur, le même opérateur qui va le faire. Voilà, à titre d'exemple, le projet InTrade actuellement qui est en cours de réalisation.
Voilà, effectivement, dans ce que vous dites, il pourrait y avoir derrière la tentation de supprimer du personnel et de faire des gains de productivité avec des gens qui seraient au chômage. Mais on peut aussi mettre ça en perspective avec, par exemple, ce qui s'est passé pour le Val, oui, le métro lillois, mmh, où au départ, faire des métros sans chauffeur, sans conducteur, ça, ouais, paraissait là aussi un problème par rapport à la masse salariale, mmh, mais qui est finalement compensé par plein d'autres salariés, mmh, qui sont venus se greffer au projet pour renforcer la sécurité, les équipes, etc. Mais là, on est plus sur des contraintes de flux, c'est-à-dire de faire qu'on puisse, selon la demande, les besoins, d'accélérer le flux, chose que l'humain n'arriverait pas à gérer seul.
Ah, l'humain n'arriverait pas à gérer seul ce type de problème, et c'est pour cela qu'on propose cette solution pour l'accompagner ou pour l'assister beaucoup plus. Et c'est à lui, sur son environnement, de programmer ce système-là pour qu'il puisse l'accompagner sans qu'il y ait de gros investissements dans son infrastructure.
Je vois, par exemple, pour le métro, hein, le Val, donc l'intérêt, c'est qu'on peut augmenter les cadences à la demande en fonction des besoins du jour ou de la nuit ou peu importe, et des événements aussi, hein, comme là il va y avoir le grand stade ou des choses comme ça, il y aura forcément par moment des flux énormes, et que pour conduire ces véhicules, un homme n'y arriverait pas, quoi. Ça va trop vite, il y aurait trop de choses à faire, et j'ai trouvé ça assez impressionnant, et ça, penser il y a déjà plus de 20 ans. Donc on est dans une suite, on va dire, pas une spécialisation, mais une spécificité de l'université. Exactement. À Lille-1, à régler ce type de problématique.
Très bien, on est sur cette continuité, on va dire, logique, sauf la seule différence ou la seule évolution par rapport au Val, c'est que le Val, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'infrastructure qui s'adapte au mode du transport, à savoir, on a dû mettre un chemin spécifique pour que ce val circule dessus. Donc, on a mis des rails. Alors, dans notre logique, on est sur plutôt une logique inverse, à savoir le système de transport qui s'adapte à l'environnement. On ne va pas demander à l'utilisateur de changer ses routes ou de faire des marqueurs au sol ou quoi que ce soit. On va s'adapter, c'est-à-dire l'intelligence, elle est embarquée sur le véhicule. On va instrumenter le véhicule pour qu'il puisse s'adapter à tel et tel et tel type d'environnement. Ceci dit, on ne dit pas que ça va marcher pour tout type d'infrastructure et tout type d'environnement confiné, mais on l'a étudié au moins pour un ensemble important d'espaces confinés, portuaires principalement, qui n'ont pas la possibilité de s'élargir en termes de s'agrandir en termes d'infrastructure, ou bien ils n'ont pas assez de moyens. Ça vise les petits et moyens ports. Ceci dit, même les grands ports peuvent quand même l'utiliser.
Alors, quand vous faites toutes ces études, je suppose que chaque rapport à son fonctionnement qui est quand même un peu différent, hein, et qui s'est construit au fil de l'histoire. Hein. Chaque port s'est adapté aussi à ses propres contraintes de ville et de vie. Est-ce qu'on peut imaginer que vous trouvez, en réfléchissant à ces problèmes, des solutions pour des ports nouveaux qui seraient à construire ?
Cette solution aussi, elle est on va dire, transférable à ce qu'on appelle la conception de futurs ports ou futurs terminaux. Dans ce cas-là, donc, à la réalisation, on pourra imaginer des infrastructures assez, on va dire, régulières, des routes assez larges pour pouvoir accueillir ce type de véhicules-là, donc à l'initial, et programmer ou prévoir un système de code de conduite à l'intérieur des terminaux en utilisant ce type de véhicule. Chose qu'on souhaiterait aussi, ou même la région Nord-Pas-de-Calais soutient cette idée-là par rapport à l'évolution future du port de Calais.
Est-ce que vous voyez dans vos travaux des choses qui vous paraissent maintenant aberrantes, qui ont été conçues il y a 100 ans sur des modèles encore précédents et qui maintenant doivent nécessiter des réajustements? Est-ce que vous voyez des choses maintenant qui sont complètement caduques et dont vous devez tenir compte quand même?
Bon, sur les systèmes, sur les, enfin, on va dire, c'est le système de transport lui-même. Donc, il y a principalement, nous, on se base sur l'existant. On n'essaye pas de sortir ou développer d'autres choses, bon, en termes de motorisation, etc., sur quelque chose qui est vraiment commercialisé, conventionné. Par contre, sur la mobilité, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler sur de nouvelles technologies de véhicules qui peuvent rouler ou circuler de différentes façons, d'accord, dans l'espace, latéralement, ça peut être facile pour parquer des véhicules, d'accord, au lieu de faire des créneaux, donc on fait des créneaux latéralement. C'est vrai, ça augmente un peu les coûts par rapport au système de roues omnidirectionnelles, mais c'est des technologies qui sont issues un peu de la robotique classique, qui sont évolutives vers des véhicules à l'échelle du véhicule. Nous disposons à l'heure actuelle, c'est vrai, d'un échantillon de véhicules légers qui se trouve au sein de Polytech, donc appelé Robucar. D'ailleurs, ce vendredi après-midi, on aura des démonstrations grand public sur le parking de Polytech dans le cadre justement du projet InTrade pour montrer un peu l'intérêt donc d'utiliser un tel véhicule qui peut à la fois être piloté, comme j'ai dit, manuellement, automatiquement, mais on utilisera c'est des véhicules électriques qu'on peut utiliser pour relier par exemple Polytech au bâtiment M1 ou bien au A3, tout en naviguant, en prenant son café à l'intérieur et en découvrant l'environnement. Ça peut être utilisé justement dans cette logistique transport de personnes, donc au niveau d'un campus universitaire. Et par ailleurs, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas d'offrir une solution qu'on dit qu'elle fonctionne dans tous les cas. C'est pour cela qu'on prend toujours en considération une marge où on dit, voilà, si ce véhicule ne fonctionne pas correctement, comment on peut sortir de cette situation-là? Et pour cela, on accompagne cette intelligence par un système de diagnostic. On continue en permanence, qui va nous dire ce moteur fonctionne bien, celui-là fonctionne moins bien, ce capteur fonctionne bien, celui-là. Et suivant la situation ou le scénario défectueux, le système embarqué de contrôle va dire oui, je vais essayer de me reconfigurer ou bien je vais m'arrêter par mesure de sécurité.
Alors, on peut aussi penser et agir local pour envisager le global. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y a beaucoup d'entreprises de construction de véhicules. Est-ce que ces entreprises sont intéressées, impliquées dans vos projets? Est-ce qu'elles misent là-dessus pour l'avenir? Et pour une fois, est-ce qu'elles auraient de l'avance?
Actuellement, non. Donc, sur notre projet, comme c'est un projet plutôt R&D spécifique un peu, donc ça veut dire recherche et développement pour un type de transport donné. Alors, notre objectif, c'est de montrer déjà la faisabilité et la réalisation sur les différents sites partenaires. Et une fois réalisé, on montre bien ces avantages-là à aux autres partenaires industriels, tels que les entreprises que vous venez de citer, entre autres, listées plus tôt, pour montrer vraiment un intérêt beaucoup plus futur. Futur dans l'exploitation de ces véhicules dits intelligents ou qui peuvent être pilotés de façon autonome ou bien manuelle, dans plusieurs secteurs. Je dis bien, donc pour le moment, on vise des espaces privés, confinés, mais pas des espaces publics, c'est-à-dire ces véhicules-là, pour là tout de suite, on ne va pas les faire circuler dans au centre-ville ou bien dans des autoroutes. C'est pas un peu l'objectif, sachant que ça existe. Dans le monde aussi, certaines autoroutes un peu dites automatisées, mais dans ce cas-là, on est contraint à l'instrumentation de cette autoroute, mais on arrive plutôt, pas un système dit intelligent, mais un système automatisé, c'est-à-dire comme le VAL qui suit une ligne guidée.
Donc, l'année prochaine, ce sera Dunkerque, capitale culturelle régionale. Est-ce qu'éventuellement, ce pourrait être un beau tremplin de présentation de vos avancées?
Oui, ça serait très bien, oui. Ça, c'est une bonne occasion, sachant que le port de Dunkerque aussi est considéré comme. Donc, a suivi donc l'évolution de ce projet-là et donc souhaiterait, oui, pourquoi pas, utiliser les livrables de ce projet dans l'amélioration de la productivité et la gestion de trafic dans ces terminaux. Et comme j'ai dit, donc la solution qu'on propose, ce n'est pas une solution bien figée, c'est à l'opérateur ou l'exploitant de l'adapter par rapport à son contexte de travail et sa gestion opérationnelle quotidienne.
Je suppose que pour l'adapter, il se repose aussi un peu sur son équipe.
Oui, bien sûr, bon, exactement. Et d'un point de vue, on va dire, technologique, on essaye toujours de proposer des solutions d'interfaçage avec l'opérateur, de telle façon qu'il n'a pas besoin de connaissances scientifiques énormes pour pouvoir piloter ce type d'engin ou de pouvoir les contrôler. Donc c'est ça un peu le but de la conception intégrée, c'est-à-dire tout est intégré à la fois lors de la conception de cette architecture dite complexe.
Alors on imagine les problèmes sur Dunkerque, mais quand on pense à des mégapoles de ports qui sont énormes en Chine ou ailleurs, hein, on voit bien que là, il y a aussi un marché économique qui pourrait être important. Est-ce que vous vous y êtes directement, sinon confronté, du moins intéressé? Est-ce que vous investissez dans ces grandes villes étrangères?
L'idée aussi, comme on a dit, on n'est pas limité en termes de grandeur du port pour appliquer ou utiliser ce type de concept, sachant que nos premiers interlocuteurs portuaires, c'était le port de Rotterdam, donc il y a 4 ans de cela. Sachant que le port de Rotterdam, c'est les premiers qui ont automatisé leur port. C'est-à-dire ils utilisent le concept AGV, c'est plutôt les véhicules pardon, automatisés, guidés. Et là, c'est des poids lourds classiques, donc en quelque sorte, c'est des camions qui transportent des conteneurs, mais sur des voies guidées au sol. Mais pour cela, eux, ils ont travaillé sur la logique, la première logique, à savoir élargir leur plateforme pour pouvoir accueillir ce type d'engin. Et du coup, c'est leur infrastructure qui s'adapte à l'environnement. Donc cette technologie, ils l'ont développée depuis 1993. Donc il y a deux grands ports de nord-ouest de l'Europe qui utilisent, qui sont des grands ports d'Europe. C'est Hambourg en Allemagne et Rotterdam en Hollande. Par contre, cette idée-là n'a jamais pu être généralisée sur d'autres ports, même depuis 1993, due à la problématique principale, c'est-à-dire instrumenter l'infrastructure pour accueillir un système de transport. C'est deux fois coûteux et c'est pas sûr qu'on trouve l'espace pour pouvoir, c'est-à-dire le jour où on veut changer d'itinéraire d'acheminement, on doit encore modifier l'infrastructure. Ce qui est un peu dur pour certains ports, la plupart des ports de ce littoral, on va dire, nord-ouest Europe. Et donc, c'est vrai, donc, notre objectif, oui, c'est de démontrer déjà, à l'heure actuelle, pour les petits moyens taille, et d'élargir ou transférer cette expertise vers de grands sites en Europe et en extra-Europe, fonds Chine, why not, et en Inde, etc.
Bien voilà, Monsieur Rojdi Merzouki. Donc merci pour ces informations. Vous ne manquez pas de travail. Donc okay. L'avenir est devant
merci.
Vous là.
Merci à vous. Je tiens à remercier Radio Campus et un bref remerciement à toute l'équipe d'Intrade, à tous les partenaires d'Intrade d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, de France aussi, à tous les enseignants-chercheurs qui participent à ce projet-là du laboratoire LAGIS. Et c'est grâce à eux qu'on arrive justement à valoriser donc ce type de projet au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais.